À Rencontre spirituelle aujourd'hui, il est question de Saint-Hildegarde de Bingen. Saint-Hildegarde était tombée un peu dans l'ombre et elle est redevenue extrêmement populaire au XXe siècle et particulièrement à travers le monde entier, alors qu'elle l'a toujours été, je crois, en Allemagne. C'est une Allemande qui est née à la fin du XIe siècle, en 1098, et qui est morte très âgée, passée 80 ans. À l'époque, c'était très âgé. C'est une femme exceptionnelle, extraordinaire, aux talents multiples, qui sourit beaucoup aujourd'hui, justement, aux femmes qui veulent reprendre une place dans notre société. Et elle est encouragée par d'innombrables publications fort intéressantes en général et que je vous recommanderai un peu plus tard. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Elle est souvent citée, mais peu connue malgré tout. Nous ne la connaissons pas tellement. Tout le monde parle de Saint-Hildegarde de Bingen, mais quand il s'agit de dire qui c'est, embêtant, c'est très embêtant. Elle se présente à nous aujourd'hui comme vraiment l'une des grandes figures de l'Occident puis de l'Europe qui se forme à l'époque, au XIIe siècle. Et elle est comme une personnalité qui est toujours à découvrir, tellement elle a de facettes multiples. Elle s'intéressait à la médecine, elle a laissé les deux premiers ouvrages de médecine que l'on connaisse en Occident. C'est une bénédictine, c'est une abbesse de monastère, c'est une musicienne, vous entendrez d'ailleurs de ses œuvres au cours de l'émission, musique choisie toujours par Jean-Pierre Noiseux de Radio Ville-Marie, et elle avait d'innombrables talents, mais elle était surtout une visionnaire depuis sa plus tendre enfance. Très jeune déjà, elle était visionnaire. Les visionnaires, c'est toujours délicat, ça nous gêne un peu. Mais c'est une personnalité qui demeure donc à découvrir de l'Europe qui se forme à l'époque, au XIIe siècle. Et elle est comme une personnalité qui est toujours à découvrir, tellement elle a de facettes multiples. Elle s'intéressait à la médecine, elle a laissé les deux premiers ouvrages de médecine que l'on connaisse en Occident. C'est une bénédictine, c'est une abbesse de monastère, c'est une musicienne, vous entendrez d'ailleurs de ses œuvres au cours de l'émission, musique choisie toujours par Jean-Pierre Noiseux de Radio Ville-Marie, et elle avait d'innombrables talents, mais elle était surtout une visionnaire depuis sa plus tendre enfance. Très jeune déjà, elle était visionnaire. Les visionnaires, c'est toujours délicat, ça nous gêne un peu. Mais c'est une personnalité qui demeure donc à découvrir, elle nous place devant des énigmes qu'il n'est pas facile toujours de résoudre. Donc c'est une femme qui fonde et dirige des couvents, qui réforme le haut comme le bas clergé. Elle est en correspondance avec les papes, les empereurs, les rois, les gens les plus réputés de son époque. Elle est aussi, comme je vous l'ai insinué, l'auteur d'une œuvre théologique et philosophique immense. J'ai appelé ça ses visions, mais ce sont des visions qui montrent qu'elle a des connaissances absolument étonnantes en sciences naturelles, puis même en médecine. C'est une femme qui entreprend aussi des voyages missionnaires quelques années avant sa mort, alors qu'elle est déjà, compte tenu de l'époque, une femme âgée. Elle tient même des sermons sur la place des marchés, à l'extérieur donc de son habit, c'est au cours de ses voyages. Elle dicte des hymnes, compose même ce qu'on appelle à l'époque des symphonies, et puis elle a entretenu une correspondance que l'on a conservée avec, on peut dire, une grande partie des grands de ce monde, de l'Église dans toute l'Europe. Quelle femme! Ses contemporains avaient reconnu tout ce qu'il y avait d'un peu spécial chez elle. Ils l'appelaient la prophétesse teutonique, si vous voulez, la prophétesse allemande. Elle était, puisqu'elle était à l'abbaye de Bingen, le joyau de Bingen. On lui a donné d'autres titres typiques de l'époque. Elle était admirée d'ailleurs à cette époque. Et pourtant, dans son humilité qui semble absolument authentique, elle ne se considérait que comme un moyen de transmission de la parole. Une trompette de Dieu. Je vous dis parfois que je suis un peu comme un robinet, mais elle, c'est une trompette. Et c'est vrai que c'est extraordinaire ce qu'elle écrit. C'est pas facile à lire tous les jours, mais je vous en lirai peut-être quelques petits passages. La masse des peuples croyants, disait le pape Eugène III en lui écrivant, « La masse des peuples croyants ne tarisse pas d'éloges à ton égard. Pour beaucoup, tu es devenu le souffle de la vie. » C'est pas peu dire, c'est le pape qui lui dit ça. Alors, il y a des gens qui s'inquiètent à son sujet. Il ne semble pas que le pape se soit bien inquiété, lui. Alors, Hildegarde est née, je vous l'ai dit, en 1098. C'est le 10e enfant. Heureusement qu'elle n'a pas été avortée. Hein. 10e enfant de Hildebert et Mechtilde, d'un couple d'aristocrates qui étaient propriétaires d'un domaine en Hesse-Rhénan. La S, vous connaissez ça, la H-E-2-S-E. À 8 ans, en tant que 10e enfant, elle avait été consacrée à Dieu. Hein. Le 10e enfant, on l'a consacré à Dieu. Alors, à 8 ans, elle a été confiée, près de Bingen, à la garde d'une ermite qui s'appelait Jutta, J-U-T-T-A, de Spanheim. Elle y a vécu comme récluse, ou si vous voulez, comme pensionnaire, je dirais, moi. Guidée, formée, puis initiée à la tradition bénédictine. Elle connaissait très bien la règle de Saint-Benoît. Les abbayes bénédictines étaient alors, évidemment, non seulement des hauts lieux de la science puis de l'art, c'était aussi des centres vivants de formation, on y formait les jeunes. Hein. Je me souviens, en 1950, j'étais allé à la Pierre-Quivire pour y entrer, d'ailleurs, une abbaye bénédictine. Il y avait là un collège, à Ancalca aussi, un collège. On y formait des jeunes, qui devenaient souvent des moines, ou des gens très importants dans la vie française, tant sur le plan littéraire que sur le plan politique même. Et c'est là qu'on trouvait, dans ces monastères, tout ce qu'une femme de la noblesse pouvait espérer donner comme connaissance spirituelle à une fille douée. C'était comme un couvent de très bonne qualité. Sous la direction donc de sa maîtresse Jutta, Hildegarde reçoit une formation qui est spécialement ouverte puis particulièrement approfondie. Elle a écrit plus tard qu'elle s'est considérée comme une femme qui n'avait reçu aucune éducation. Mais il ne faut pas croire ça. C'est typique, on voit ça même chez les prophètes de l'Ancien Testament. Je n'ai aucun talent pour la parole, c'est du Seigneur, et puis c'est pas vrai, les prophètes parlent très bien. Alors en réalité, nous nous trouvons face à une personnalité à la culture rare, exceptionnelle. Hildegarde connaissait les textes, donc, de la règle de Saint-Benoît. Elle a appris très jeune le chant des psaumes. Quand on rentre dans un monastère, il faut absolument apprendre les psaumes. C'est essentiel. Autrement, on prie dans le vide. Il faut comprendre le sens, la portée profonde, l'origine. C'est très important si on veut prier avec toute son âme, toute son intelligence et tout son cœur. Parce que c'est des heures et des heures par jour. Hein? Alors, les sujets quotidiens de méditation, pour elle, mais ça provenait évidemment des textes liturgiques comme une vraie bénédictine. Et puis, évidemment, de la Bible, des Saintes Écritures. Elle avait une connaissance approfondie de l'Ancien Testament, ainsi que des pères de l'Église. Elle a entretenu comme ça, comme je vous ai dit, une correspondance avec des savants de tout premier plan de son temps. Elle a bénéficié aussi de la présence continuelle de collaborateurs. Pendant plusieurs dizaines d'années, là, c'est le moine Wolbert. Et il y a eu aussi une religieuse, Richardis von Stadt. Puis pendant les dernières décennies de sa vie, c'est Guibert de Jambloux, un nom qu'on connaît, un moine d'une grande réputation. La rencontre de Sivard, évêque d'Uppsala, dans le nord de la Suède, un homme instruit qui a résidé à Disibodenberg, où elle était en 1138, et qui y a consacré 3 hôtels, il est apparemment importante pour ses connaissances générales. Et puis, C'était une rencontre importante pour elle. À sa mort, en 1158, cet homme laisse une bibliothèque très fournie qui comprend entre autres un livre sur les herbes, un autre sur les pierres, et l'encyclopédie d'Isidore de Séville dont je vous ai déjà parlé, ainsi que 6 livres de médecine, et c'est ce qui va l'orienter vers à devenir, on pourrait dire, un médecin. Compte tenu de la façon de devenir un médecin à l'époque, hein, il n'y a pas de faculté de médecine. À 16 ans, la novice Hildegarde reçoit le voile, donc, des mains de l'évêque Otto de Bamberg. À la mort de Jutta, qui la protège, qui l'a formée, ça arrive en 1136, donc elle a 38 ans, Hildegarde, elle est élue maîtresse des novices du couvent de Dissy-Bodenberg. Et pendant toutes ces années, cette jeune femme n'avait senti en elle un don qu'elle appelait sa vision, depuis son tout jeune âge. C'est curieux, elle voyait une grande lumière qui faisait frémir son âme et au sujet de laquelle elle n'arrivait pas à s'exprimer. Hildegarde dit expressément que cette vision n'a pas été inventée par elle, ni influencée ou même suggérée par un autre être humain. Elle dit aussi que, tout à coup, le sens des Écritures lui a été comme ouvert par des visions, et même mieux, par des révélations qu'elle entendait de son oreille, hein, et qui lui permettaient de dépasser puis d'éclairer tout raisonnement de la raison, là, tout raisonnement rationnel. Et cette intuition lui faisait tout voir dans la lumière de Dieu. Tout voir dans la lumière de Dieu. C'est le secret des saints. La vue perçoit en aimant, évidemment, l'ouïe discerne, le goût perçoit, bon, ben, la saveur, notre odorat choisit, puis le toucher prend ce qui plaît. Alors, elle disait, en tout cela, c'est Dieu, auteur des créatures, qui se trouve représenté. C'est vrai que c'est toujours Dieu qui agit dans tout ça. C'est Dieu qui nous a donné les sens. Et nous devons ne nous en servir qu'avec ce sens profond de la présence de Dieu pour comprendre ce que Dieu veut nous enseigner. Dans le miroir de la foi, elle dit que l'homme regarde donc vers Dieu, qui, grâce à ce miroir, se reflétera dans le cœur humain. Le monde extérieur n'est qu'un moyen en vue de cette connaissance illuminante. Dieu ne peut pas être vu directement, c'est à travers la création qu'il est reconnu. Et ce n'est uniquement par l'homme qui joue là le rôle de miroir de toutes les merveilles de Dieu. Combien de fois je vous ai dit que nous sommes dans le creux de l'univers entier, de toutes ces milliards de galaxies, c'est petits êtres de rien du tout que nous sommes, des êtres humains, mais c'est en nous que se mire Dieu. Et nous offrons du fond de notre cœur tout cet univers à ce Dieu qui l'a créé. Nos animaux ne peuvent pas faire ça, nos petits chiens, nos petits chats. Peuvent pas. Nous seuls. Nous seuls. Et en 1141 à 43 ans, cette vision devient réellement active et comme un feu puissant. L'Esprit divin fait irruption dans la vie d'Hildegarde. Ça change la visionnaire muette en prophétesse, et l'ordre qu'elle perçoit en elle-même devient de plus en plus clair. Elle entend ça, écris ce que tu vois et ce que tu entends. Et c'est comme ça que s'exprime la voix d'en haut, une voix qui fait peur à Hildegarde, et qu'elle veut tout d'abord fuir en se réfugiant dans la maladie, mais ce n'est que plus tard qu'elle va oser affronter le public. Elle doute de sa mission. Hildegarde s'adresse en 1147 à Saint-Bernard et l'abbé de Clairvaux est déjà à cette époque une personnalité influente. Il dit, je t'en supplie, père, écoute-moi, alors je m'adresse à toi. Elle est inquiète de ses visions parce qu'elle est humble. Et c'est comme ça qu'elle commence sa lettre, mais elle passe immédiatement à son problème personnel, puis elle me dit, je me fais du souci au sujet de cette vision qui m'est apparue en esprit comme un grand mystère. Moi, malheureuse et plus que malheureuse dans mon être de femme, c'est dès mon enfance que j'ai vu des choses étonnantes que ma langue n'aurait pas su exprimer si l'Esprit de Dieu ne m'avait enseigné la foi. Mais elle n'a jamais, depuis son enfance, vécu des moments de certitude, pas même une heure, dit-elle. D'où sa demande pressante, réponds-moi, que penses-tu de tout cela? Et nous verrons tout à l'heure comment Saint Bernard va s'occuper d'elle à regret avec un peu d'hésitation. Écoutons pour l'instant une œuvre justement de Saint Hildegarde de Bingen, chantée par Norma Gentile, soprano. Cette sorte de dialogue qui existe entre saint Hildegard de Bingen et saint Bernard de Clairvaux est très beau. Elle lui dit « Je suis un être humain qui n'a pas puisé dans les livres des connaissances extérieures, d'où mon doute, mon incertitude. » Alors, elle cherche pas seulement un réconfort puis consolation, mais un signe clair et net. Elle lui dit d'ailleurs quelque chose d'absolument étonnant, je n'ai jamais rien lu comme ça. « Je suis couché dans ton âme. » Afin que par ta parole, tu me fasses savoir si tu veux que je révèle tout ceci ou s'il vaut mieux que je me taise. Et pour terminer, Hildegard demande à Bernard de ne pas rester indifférent, mais de lui répondre avec la vivacité qu'il utilise dans le monde. Saint Bernard est un cistercien, un moine cistercien, très connu, hein? Et elle lui dit, car tu ne mènes pas seulement ta propre vie, c'est le monde entier que tu conduis vers son salut. Tu es l'aigle qui regarde le soleil. Tu es l'aigle qui regarde le soleil. On pourrait dire ça du pape. Et dans sa réponse, il s'agit de la première lettre de lui qui nous soit parvenue là, saint Bernard de Clairvaux reste prudent et se réjouit avec elle de la grâce de Dieu à l'œuvre en elle. Il adjure d'y correspondre de tout cœur. Il admire d'ailleurs son charisme. Puis il conclut, « Que pouvons-nous encore t'apprendre, Hildegard? En quoi pouvons-nous t'exhorter, alors que tu bénéficies d'une initiation intérieure et qu'une onction t'a déjà enseigné sur tout ?» Alors, si saint Hildegard de Bingen, qui est bien modeste, a été proclamé prophétesse teutonique, comme je vous ai dit, prophétissa teutonica. C'est en partie grâce à Bernard de Clairvaux. Et puis, il réussit à inciter le pape lors d'un synode, le pape Eugène III, à faire lire devant une assemblée de cardinaux et de prêtres des extraits de l'œuvre de Hildegard, imaginez. Le pape avait auparavant fait examiner ses écrits par une commission, à la suite de quoi il a encouragé la visionnaire à en faire profiter le monde entier. Il s'agit là certainement d'un tournant décisif dans la vie de Hildegard, car une partie au moins de ses visions recevait ainsi une reconnaissance officielle du pape. Elle a reçu de plus une lettre personnelle du pape Eugène dans laquelle il louait sa réputation pleine de noblesse, parlant du feu de l'amour divin par lequel elle se laissait consumer. En ce qui concerne les événements de cette vision, il s'agit aucunement d'une extase qui l'aurait fait sortir de son corps pour planer en quelque sorte au-dessus des choses, non. Décrire les visions de saint Hildegard comme un essai narcissique d'auto-salut, comme ça a été écrit en 1993 par un Allemand, c'est aussi fou que de vouloir les taxer d'hystérie, comme l'a dit un autre en 1930. Et sans parler de l'absurdité de prétendre qu'elle aurait souffert du bruissement pendant une attaque de migraine, puis d'expliquer de cette façon-là ses visions, comme ça a été fait en 1917. Les gens s'attaquent toujours de toutes sortes de façons à tout ce qui est merveilleux dans notre Église. Avec raison, c'est bon, parce que ça nous permet, nous, de vraiment vérifier les choses. Je ne suis pas contre le fait qu'on nous attaque. C'est bon, dans un sens, ça permet d'aller au fond des choses. Inutile de vouloir confondre donc ses visions passionnées avec une quelconque ivresse qui aurait pu l'abrutir et qui aurait ruiné ses forces créatives. Non, il s'agit bien de visions vécues avec son intelligence en éveil. Elle est saisie par Dieu, saint Hildegard. C'est une grande visionnaire qui entre en mouvement, qui commence à résonner comme un tambour, comme une cymbale, si vous voulez, résonner. Oui, comme un instrument de musique, là, à travers lequel passe le souffle d'un autre. Et elle englobe ainsi le monde dans sa plénitude et sa beauté, pendant toute une vie de mûrissement qui s'est confirmée avec une sûreté extraordinairement grande. Rappelons-nous l'espèce d'incertitude avec laquelle Hildegard s'est adressée en 1147 à Bernard de Clairvaux, je vous l'ai lu, écrivant « Il y a des années de cela, je t'ai vu dans ma vision comme un homme qui regarde le soleil, qui n'a pas peur, bien au contraire, qui est intrépide, mais moi, Hildegard, j'ai pleuré, parce que j'ai rougi tellement, et parce que je suis si timide. » Mais c'est étrange, et en 1175, beaucoup plus tard, elle va avoir, à ce moment-là, 77 ans, c'est une femme d'expérience et sûre d'elle-même qui décrit ses visions à Guibert de Jean Blou, dont je vous ai dit un mot tout à l'heure, qui était un homme important de son époque. Et elle fait ça avec modestie, mais avec précision. Elle dit, « Comment est-ce que je pourrais faire comprendre cela si moi, pauvre femme, je ne me connaissais pas moi-même? Dieu agit là où il veut, pour l'honneur de son nom, et non pour celui d'un homme terrestre. C'est ainsi que je suis constamment rempli de craintes tremblantes, car je ne me sens détentrice d'aucun bien. Ou de quoi sommes-nous détenteurs? Tout nous est donné. » Et elle ajoute, « Et pourtant je tends mes mains vers Dieu pour que je sois portée par lui, comme une plume qui n'a pas de poids et qui se laisse entraîner par la force du vent. » Elle a un goût littéraire qui me plaît, moi. Et depuis l'enfance, donc, elle se réjouit de ce don de vision qui s'est maintenu jusqu'à ce moment précis, alors qu'elle a déjà dépassé 70 ans. Je pourrais vous lire bien d'autres choses, mais en tout cas, dans chacune des phrases de sa création littéraire, Hildegard agit de façon tout à fait originale, toute remplie de cet extraordinaire don, un don intuitif là, qui fait de son œuvre, qui est une espèce de poème du monde, une œuvre unique. Et c'est jamais imité l'abbé Kuno de Dizzy Bodenberg, qui l'a désigné comme collaborateur, là, c'est jamais imité dans le contenu des textes. On a des miniatures de l'époque où on la voit inspirée, puis lui, il écrit. C'est assez sympathique. Elle a eu un autre secrétaire aussi, comme je vous ai dit, le Richardis von Stade, une religieuse très instruite, qui est devenue abbesse d'ailleurs du couvent des bénédictines de Bassum, près de Brême, où elle est morte très jeune. Elle a eu frère Guibert, son troisième collaborateur. Il venait de l'abbaye de Jean Blou, près de Namur. Hein. Mais la meilleure façon d'entrer dans l'œuvre d'Hildegard, c'est de commencer par l'ouvrage théologique de base, qui est intitulé « Chivias Domini ». Si vous voulez, « Connais les voies du Seigneur, Chivias Domini ». Chivias, c'est S-C-I-V-I-A-S. En 26 visions, dans cet ouvrage, elle dévoile les secrets de la nature divine. Elle parle de Dieu dans la lumière, du monde des anges. Elle parle aussi de la création de l'homme, mais aussi, terriblement, de la catastrophe cosmique, l'œuvre de feu aussi de la rédemption, le devenir du salut. Et tout cela constitue un drame, une espèce de drame de l'histoire du monde et du salut qui trouve sa conclusion à la fin des temps quand apparaîtront les cieux nouveaux et la nouvelle terre. Le deuxième écrit visionnaire important, lui, date de 1148 et 1163, c'est intitulé Liber Vitae Meritorum, c'est le livre des mérites de la vie, mais l'œuvre majeure et la plus mûrie de Hildegard, c'est incontestablement sa vision du monde et de l'homme, le Liber Divinorum Operum, qui date des années, voyez-vous, 1163, la fin de l'autre, pendant 10 ans, celui après 10 ans. Donc, en l'espace de 10 visions, des 10 visions, elle dévoile de la Genèse à l'Apocalypse, là, une histoire du salut sous-tendue par une cosmologie. C'est immense, c'est une œuvre immense, hein. Son interprétation du prologue de Saint Jean montre l'homme comme centre vivant du monde. Et plus nous comprendrons que nous sommes au centre de ce monde, où Dieu nous a placés, nous ne sommes pas de notre grâce à nous-mêmes, si nous sommes au creux de cet univers, au cœur de cet univers, c'est Dieu qui nous y a mis. Et nous ne pouvons être au creux de cet univers que si Dieu nous habite. Si nous sommes unis à Dieu et que nous reconnaissons qu'il est le Créateur, qu'il est l'objet de notre amour parce que nous sommes l'objet de son amour. L'œuvre littéraire de Hildegard comprend également une grande correspondance. Elle est adressée au pape Eugène III, Anastase IV, Adrien IV, Alexandre III, ainsi qu'aux archevêques de Mayence, de Trèves, de Cologne, de Salzbourg. Elle écrit à l'empereur Frédéric Barberousse, au roi Conrad III, au roi Henri II d'Angleterre, ainsi que sa femme Éléonore, Berthe, comtesse de Sulzbach et impératrice de Byzance, de même que de nombreux évêques, des ducs, des abbesses, des abbés, des prêtres, des laïcs, c'est incroyable. Il faut également mentionner, entre 1150 et 1160, des traités de sciences naturelles et de médecine que nous connaissons sous leur titre de Physica et Causae et Curae. Ils proviennent apparemment d'un manuscrit unique, le livre des propriétés plus précises des différentes natures dans la création. Puis dans ces traités, cela vaut en particulier pour la physiologie, la pathologie et même la sexualité qui y est traitée de façon étonnamment concrète. Tout ça est très étrange et très spécial. J'aurais le goût de vous lire des passages de ses écrits. Je vous lis un petit passage de Chivias. Elle dit « Le fils de perdition, le démon. » Et cette bête très méchante, comme Saint Jean l'appelle dans l'Apocalypse, qui fera mourir ceux qui refuseront de croire en lui, qui s'associera les rois, les princes, les grands et les riches, qui méprisera l'humilité et n'estimera que l'orgueil, qui enfin subjuguera l'univers entier par des moyens diaboliques. Elle a de ces visions terribles. Elle a quelque chose d'un peu de Teilhard de Chardin. Ceux qui aiment Teilhard de Chardin l'aimeront. Ceux qui aiment Saint Paul aussi l'aimeront beaucoup. Ceux qui aiment le livre de l'Apocalypse l'aimeront. Parce qu'elle dit des choses magnifiques. Parce qu'elle a une vision cosmique qui aide à dire oui à un monde que Dieu a créé par amour. C'est ce que dit Christian Feldmann en page 151 dans son bel ouvrage « Hildegard de Bingen, Monial et génie ». C'est publié ici à Montréal, chez Mediapol. Vous pouvez trouver ça ici à Montréal. Chez Mediapol, un très bel ouvrage écrit par cet Allemand, traduit en français, par Maurice Léveillé. Et c'est un ouvrage considérable, de près de 300 pages, très bien documenté, que je ne saurais trop vous recommander. C'est un très, très beau livre, qui se vend $30. Hildegard de Bingen, de Christian Feldmann, aux éditions Mediapol. L'œuvre littéraire, très vaste, de Saint-Hildegard, savez-vous, n'a pas eu beaucoup d'influence sur la fin du Moyen-Âge et le début des temps modernes. Toute cette génération là, de Thomas d'Aquin, qui a été façonnée par, on pourrait dire, la redécouverte de l'œuvre d'Aristote, n'a pas voulu accepter un enseignement qui émanait évidemment d'une vision symbolique du monde. On aimait mieux les choses rationnelles, les choses logiques. Au début du XIIIe siècle, un moine, Gebenau, prieur d'Eberbach, un monastère voisin de celui de Rupertsberg, a rassemblé dans un livre, Speculum Futurorum Temporum, le miroir des temps futurs, tout ce qui, chez Hildegard, relevait de la politique. C'est ce qui a fait qu'au lieu d'être cosmique, comme je vous ai dit tout à l'heure, elle est devenue une prophétesse politique, et ça, c'était pas une très bonne chose. Les humanistes se sont gaussés de son mauvais latin aussi. Comment prétendre que le Saint-Esprit ait pu utiliser une telle langue, disait-on? Pourtant, la Sainte Vierge apparaît, dit-on, il parle en patois, à Sainte Bernadette et à d'autres. Il ne faut pas séparer l'œuvre littéraire de Hildegard, qui est évidemment très vaste, de son activité artistique aussi. Dans des textes traitant de Dieu et du monde, des créations, des fêtes, de l'action et de la souffrance, etc., qui a trouvé sa plus belle expression dans les Lieder, ou si, les, si vous voulez, les symphonies, comme on disait à l'époque, d'Hildegarde. On en entend au cours de cette émission. L'activité de l'homme dans le monde est, selon Saint-Hildegarde Bingen, de nature essentiellement artistique. Curieux, hein? Et plutôt, comme elle dit, artistement accordé que techniquement déterminé, car cette activité est à l'image de celle du Créateur, et Dieu lui-même est désigné par elle comme un grand architecte, un penseur prodigieux, un artiste d'une grande profondeur, un forgeron extraordinaire. Et en tant qu'artiste incomparable, bien Dieu s'est préoccupé de l'homme, son œuvre par excellence. Il reste avec lui et en lui continuellement à l'œuvre. Dieu, c'est le Deus Faber, qui a fait l'Homo Faber, son compagnon, et qui lui dicte ses règles. Et comme Dieu est appelé, à cause de sa force agissante, le plus grand de tous les artistes, eh bien l'âme apparaît comme l'atelier du Créateur. Oui, nous sommes l'atelier de Dieu. Dieu est en nous. Il est un artiste qui fabrique. Il fait de nous des pierres vivantes. Et des pierres vivantes, il construit son Église. Nous allons, si nous devenons des saints, aider Dieu à aller jusqu'au parachèvement de cette Église. Mais encore faut-il que nous acceptions de devenir des saints. Un jour où Hildegarde était gravement malade, au point qu'on craignait qu'elle meure, ses sœurs lui ont demandé, inquiètes, où allons-nous trouver les réponses à nos questions et le son d'une mélodie encore inconnue. Alors les jours de fête, ainsi que nous rapportent ses contemporains, c'est un peu surprenant, bouchez-vous les oreilles, si vous n'aimez pas ça, mais je vous le lis parce que c'était comme ça, les religieuses du couvent de Hildegarde se réunissaient dans le cœur, les cheveux dénoués, la tête recouverte de soie lumineuse, portant soit des couronnes de fleurs tissées de fil d'or, soit des diadèmes ornés de la croix et de l'agneau, Jésus l'agneau, des bagues aux doigts, et elles chantaient. Curieux. Autre temps, autre mœurs. Il semble bien que le collaborateur et biographe d'Hildegarde, Guibert de Jean-Blou, ait souvent été témoin de ses offices. De ces offices absolument étranges qui tournaient à la fête, à Rupertsberg. Car il en a fait un récit, et un récit enthousiaste. Selon lui, l'abbesse aurait, Hildegarde, avec un très grand sens artistique, mis sur ses mélodies des textes à la gloire de Dieu et en l'honneur des saints. Et ces mélodies étaient, dit-il, accompagnées des plus beaux instruments, de telle sorte qu'elles puissent être chantées ouvertement dans l'église, et Guibert de Jean-Blou de s'écrier, qui a jamais appris quelque chose de semblable de la part d'une femme? Quelle femme étrange, originale et merveilleuse! Je ne dis pas que j'aimerais aller à Sainte-Marie des Montagnes et de voir de telles choses chez les bénédictines, mais enfin. Enfin. Ici, elle montre les merveilles de Dieu. Hildegarde ne parle jamais de révélation concernant l'avenir des hommes. C'est pas une prophétesse de l'avenir. Elle écrit cela de façon encore plus claire. Elle dit, je ne veux pas connaître l'avenir des hommes, car cela est préférable pour l'âme. Son devoir prophétique à elle, c'était pas de satisfaire la curiosité humaine, c'était pas Jojo Savard, mais de transmettre ce qu'elle appelait le don de profondeur de l'Écriture sainte. La profondeur de l'Écriture sainte. Hildegarde s'est bien vue dans le rôle d'une prophétesse, comme on l'entend dans l'Ancien Testament. Et elle n'a pas hésité à se comparer d'ailleurs aux grandes figures de l'Ancienne Alliance comme Isaïe ou Ézéchiel. Curieux, hein? Pourtant elle était humble. Pensant certainement à sa propre expérience, d'ailleurs elle décrit ainsi l'attitude de ses prophètes. Une certaine dureté se fait jour chez eux, semblable à la solidité du marbre. Ces prophètes ne flattent personne, et bien au contraire, ils sont inondés de l'Esprit Saint. Ils se tiennent sans faiblir dans la vérité entière. Et quand on les lit, on voit, ils disent la vérité. Il n'y a pas de dualité dans leurs paroles, ce ne sont pas des mollassons, les prophètes. Tout ce qu'ils disent, ils ne le reçoivent de personne d'autre que du Dieu indivisible. Ainsi, sont-ils inflexibles? Ils sont comme la pierre. Ces prophètes de l'Ancien Testament ne cèdent à personne. Tout cela se passe dans la clarté et la simplicité. Dans la simplicité d'un enfant, il ne parle de rien qu'il n'ait vu ou qu'il ne sache, dit-elle. Si elle critique de façon véhémente et inhabituelle pour son époque son siècle qu'elle appelle un siècle féminin, cela tient de sa vision du monde. Dans une lettre au pape Anastase IV, Hildegarde qualifie ce siècle de moderne, où l'argent exerce une tyrannie infernale, où les hypocrites, en préparant la guerre, maintiennent une paix froide, où le monde s'abrutit dans les divertissements futiles, où même Rome est près de sa fin. En bref, Hildegarde ne se contente pas de critiquer ce siècle qu'elle appelle féminin. Elle entre en guerre contre lui. Elle s'adresse au chapitre des couvents. Elle prend la parole sur les marchés des grandes villes, comme je vous l'ai dit au début de l'émission, pour exiger ouvertement une réforme de la morale et aussi prêcher contre la secte des cathares. Ces attaques de la politique de l'Église sont aujourd'hui encore une grande actualité. Mais Hildegarde s'attaque d'abord aux cathares, très actifs en Rhénanie en ce milieu du XIIe siècle. Ces cathares se proclamaient les entièrement purs, c'est ce que ça veut dire. Ils pensaient être baignés par l'Esprit Saint. Mais comme le dit Hildegarde, ils s'octroient des femmes pour s'amuser dans la luxure. Les cathares, ça veut dire les purs, étaient venus de l'Est avec les marchands et les croisés, du sud de la France. Ils s'étaient établis à Cologne vers 1140 et répandus ensuite rapidement en Franconie et dans le nord de l'Italie. Ils essayaient d'enfermer le mouvement de renouveau de la pauvreté dans une espèce de dualisme manichéiste. Et il prétendait que Dieu n'aurait créé que l'âme, qui est pure, puis c'est le démon qui aurait créé le corps impur. Alors un concile cathare a amené à une division du mouvement. Et d'un côté, là, le groupe de Walden prônait la pauvreté évangélique, puis de l'autre, les albigeois, dans le sud de la France, qui pensait introduire une hiérarchie calquée sur celle de l'Église. De toute façon, c'était pas seulement le rigorisme ascétique des cathares, le refus du mariage, la prêtrise de l'Eucharistie qui faisait agir Saint-Hildegarde, mais bien plus leur tendance gnostique de mépris du corps et de négation de la sexualité. Hildegarde réplique que la relation entre l'homme et Dieu est aussi inséparable que celle qu'il a avec la nature. Pour elle, il n'existe qu'une seule réalité. Elle repose sur l'homme bien concret, qu'à la fin des temps vivra avec la création transfigurée, en corps et en âme, comme un seul être, et dans un achèvement unanime, dit-elle. Elle a une vision assez biblique et qui rejoint certains textes de Théilhard de Chardin. Elle fait de nombreux voyages, 25 à 30 kilomètres par jour. Et même de nos jours, il est intéressant de relire certains de ces sermons qui nous ont été conservés probablement sur l'ordre des autorités spirituelles de Cologne. En s'adressant au clergé, elle dit notamment des choses un peu pénibles. J'hésite à les lire, mais enfin, l'émission lui est consacrée et je les lis. « Vous êtes la nuit. » Elle parle au clergé, c'est épouvantable. « Vous êtes la nuit. Vous respirez l'obscurité. » Un peuple à la nuque raide, qui à cause de son opulence, ne se met plus dans la lumière. Vous ne voyez que ce que vous avez produit vous-même. Vous ne faites et ne tolérez que ce qui vous plaît. Et plus loin, elle dit, vous n'avez même pas Dieu dans la tête, parce que vos œuvres n'éclairent plus les hommes du feu de l'Esprit Saint. Vous n'êtes plus capable de donner le bon exemple. À l'image des vents qui se précipitent sur toute la terre, vous devriez être un ouragan de l'esprit. Mais vous êtes paralysé à la simple mention du vent. Vous vous comportez tantôt comme un général, tantôt comme le dernier des domestiques, quand ce n'est pas comme ceux qui viennent d'inventer de nouvelles grimaces. Mais tout ce que vous arrivez à faire, c'est de chasser quelques mouches en été. Elle parle comme les prophètes de l'Ancien Testament auprès de leur époque. C'est terrible, hein? Ça me gêne un peu de lire ça. En tout cas, ils auraient dû être comme le jour lumineux, ces dirigeants spirituels. Et au lieu de cela, elle prétend qu'ils n'ont été que nuit et obscurité, couchés comme des morts. Ils étaient tellement attirés par la renommée du monde. Elle prétend qu'ils n'arrivaient plus qu'à faire de la diplomatie. Elle leur dit, « Et pourtant, vous devriez être des pierres d'angle de l'Église. Vous devriez être les colonnes qui supportent le monde. Mais vous n'avez pas à soutenir quoi que ce soit. À cause de l'argent et de votre avarice abominable, vous n'éduquez même plus votre peuple. Et vous vous justifiez de façon imbécile en disant, « Nous ne pouvons quand même pas tout faire. » C'est ainsi que le peuple se disperse et suit ses propres critères. Vous devriez être une colonne de feu et recourir à la discipline. Vous ne trompez que vous-même avec vos excuses idiotes. Nous ne pouvons plus rien faire de ce monde, dites-vous. C'est pourquoi le monde se moque de vous en disant, comme le psalmiste, les voilà qui titubent et chancellent comme des gens pris de boisson, et toute leur sagesse s'en est allée. Jamais une femme n'avait encore eu l'audace, évidemment, de prendre ainsi la parole, et ses contemporains eux-mêmes étaient ébahis devant des phénomènes uniques comme ceux-là. Hein? En entendant cette parole prophétique, on comprend que sa mystique n'avait rien à voir avec celle des ménestrels prises par Dieu des 13e et 14e siècles. La parole d'Hildegarde fait bien plus penser à celle des prophètes de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament, si vous préférez, qu'ils avaient moins à prédire qu'à annoncer afin d'obtenir des résultats. Et ce qui élève Hildegarde, la plaçant au sommet de l'édifice gothique de la scolastique, ce qui l'a fait finalement dépasser tous les mystiques de la fin du Moyen Âge, c'est qu'elle était en avance sur son temps et qu'elle a exercé ses dons prophétiques pendant une période trouble. Et sa synthèse entre le voir et le faire, entre, si on peut dire, l'image et le concept, la rapproche de Dante. J'ai déjà fait une émission sur Dante. Et cela la place au centre d'une tradition de l'Occident chrétien, qu'on est encore loin d'avoir entièrement découverte. La prophétie existe toujours, et je crois que la plus grande prophétesse des temps modernes est morte il y a quelques jours, Mère Teresa, qui disait sur un autre ton les mêmes choses finalement, pour nous parler de la sainteté à laquelle nous sommes tous voués. Ces chroniqueurs disent que sa vie entière a été à l'image d'une mort précieuse. Et cela est vrai surtout des dernières années pendant lesquelles Hildegarde a non seulement dû supporter les maladies et les douleurs physiques, mais aussi elle a subi des épreuves inattendues. Qu'il s'agisse du sens de la vie ou de ce qu'elle avait à faire chaque jour, elle était, selon l'esprit bénédictin, tendue vers la discipline. Et prenant sa vie en main, elle ne voulait pas être accaparée par la banalité du quotidien. Et c'est pourquoi elle se tournait vers le mysticisme. Les chroniqueurs de son temps certifiaient que de tous côtés, des foules d'hommes et de femmes assiégeaient le monastère pour y trouver conseil et solution à leurs problèmes personnels. Les malades y étaient accueillis et soignés. On dit que même des savants juifs venaient discuter avec Hildegarde, et qui leur opposait sa propre loi avec beaucoup de délicatesse. Mais en tout, elle faisait montre d'un enseignement saint. Quand elle parlait de la nature de l'homme, quand elle parlait du combat entre l'esprit et la chair, ou encore de l'exemple des saints-pères, elle était très, très handicapée par les maladies. Elle se sentait, comme elle l'a écrit à Guibert de Jambiou, c'est son texte, tellement prise par les souffrances qu'elle menace de me mener à la mort. Mais jusqu'à maintenant, Dieu m'a toujours ranimé. Les chroniqueurs relatent les dernières années de sa vie avec des paroles émouvantes. Et après avoir mené tant de combats difficiles, cette sainte mère a éprouvé du dégoût pour la vie ici-bas. Elle demandait chaque jour d'être délivrée et de se trouver auprès du Christ. Sainte Hildegarde de Bingen est morte le 17 septembre 1179, à près de 81 ans, dans son couvent de Rupertsberg, près de Bingen. L'auteur de sa vie, la Vita, rapporte un étonnant phénomène lumineux, une croix qui aurait apparu au-dessus de la chambre mortuaire, et selon lui, Dieu aurait ainsi voulu démontrer, c'est le texte, avec quelle plénitude de lumière il glorifie sa bien-aimée au royaume du ciel. Vous savez que ça arrive même de nos jours. Ça peut vous sembler curieux, mais ça arrive de nos jours. Alors qu'elle était en train de mourir, Hildegarde avait déjà la réputation d'une prophétesse qui avait voulu uniquement faire ouvrir aux hommes leurs yeux et leur cœur à la réalité, à un monde dans lequel l'homme, créature de Dieu, devait à son tour devenir créateur d'un monde nouveau. Pas nouveau, tout le monde nous le dit depuis 2000 ans. Le pape vient de le dire qu'il faut créer une civilisation de l'amour, il l'a dit à 1 million de jeunes. Voilà l'originalité quand même d'Hildegarde pour son temps. Elle reste de ce fait unique dans l'histoire spirituelle de l'Occident. Elle fut une femme sensible et pleine de tempérament. Le vase fragile d'une simple femme, comme on dit. Une femme en laquelle transparaissait sans cesse, dit-on, la fraîche viridité de la floraison féminine. C'est-à-dire la fraîche verdure, si vous voulez, viridité de la floraison féminine. C'est des caractères, des expressions un peu de visionnaire. Alors on comprend bien que dès cette époque, quelqu'un comme l'abbé Rupert de Königsthal se soit écrié « Les professeurs les plus intelligents de tout le royaume des Francs n'arriveront pas à un tel résultat avec leur cœur sec et leurs joues gonflées. Ils n'arrivent qu'à produire une criaillerie dialectique et se perdent dans des subtilités rhétoriques. Mais cette femme bénie ne met l'accent que sur l'essentiel. » C'est dans sa plénitude intérieure qu'elle puise ce qu'elle répand sur le monde. Hein? C'est un abbé de monastère, là, Rupert de Königsthal, qui a dit ça. On aurait, me semble, de ce fait intérêt, écrit son biographe, Guibert de Gembloux, à boire à cette source de plénitude pour ne pas ressembler à l'âne, dit-il, qui transporte du vin sans y goûter. C'est vrai que les vins transportent de l'âne sans y goûter. Mais nous, nous transportons aussi du vin. Nous avons Dieu en nous, la parole de Dieu, la connaissance des vies des saints. Qu'en fait-on? Il y a de grandes fêtes qui se déroulent à Eibingen en Allemagne chaque année, aujourd'hui. Alors ils font des pèlerinages là-bas, puis transportent une châsse remplie des reliques de Saint-Hildegarde. La fête est immense et on voit au loin la belle abbaye, dont l'architecture est magnifique. Il y a même des sculptures de Saint-Hildegarde dans l'église paroissiale. C'est à voir, quand on est en Allemagne, à ce moment précis. J'en profite pour saluer, savez-vous qu'au Québec, nous avons Monique Plamondon, qui est membre de l'International Society of Hildegard von Bingen Studies. Oui, une Québécoise qui est une très grande spécialiste de Saint-Hildegarde. Je vous recommande aussi ce livre qui m'a beaucoup inspiré aujourd'hui, Hildegarde de Bingen de Heinrich Schieperges, publié chez Brepols, B-R-E-P-O-L-S, ce sont des éditions françaises à Paris. Hildegarde de Bingen, c'est un livre de poche, ça a 200 pages, c'est fort bien fait, et aussi, on peut lire, il y a des œuvres, en particulier, moi j'ai de Hildegarde de Bingen, le livre des œuvres divines, ce sont des visions, publié chez Albin Michel, c'est un ouvrage assez considérable, d'un peu plus de 200 pages en petits caractères.